France Culture.
Réplique, les rêves et les cauchemars de l'intelligence artificielle avec Raphaël Dohan et Éric Sadin. Comme je me tiens, par prudence, par paresse ou peut-être par bêtise, éloigné des nouvelles technologies, j'ai longtemps rechigné à faire une émission sur l'intelligence artificielle. Mais le phénomène a pris une telle vitesse et une telle ampleur dans presque tous les secteurs de l'existence que je ne pouvais plus le mettre sur une liste d'attente. La procrastination aurait été, en l'occurrence, une faute professionnelle. Je devais impérativement abandonner la maxime « Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain ». J'ai donc invité aujourd'hui le philosophe Éric Sadin, qui au moment même où le président de la République accueillait un sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle au Grand Palais, a organisé un contre-sommet au Théâtre de la Concorde. Et pour faire face à Éric Sadin, l'historien Raphaël Dohan, qui s'est servi de l'IA pour écrire une uchronie intitulée « Si Rome n'avait pas chuté ». Instruisez-nous d'abord, messieurs, et dites-nous quand, comment et pourquoi est né ce nouveau prodige de la technoscience qui empiète allègrement sur le propre de l'homme, l'intelligence artificielle. Raphaël Dohan.
D'abord, merci pour votre invitation. Alors, pour faire effectivement très simple et sans rentrer dans l'exhaustivité de l'histoire de l'intelligence artificielle, la première chose à voir, c'est que c'est un concept qui est arrivé assez vite dans l'histoire de l'informatique. Peu après en fait, avoir inventé les ordinateurs, on a tout de suite eu l'idée qu'on pourrait essayer de leur faire imiter l'intelligence humaine. Alan Turing avait tout de suite commencé à réfléchir sur le sujet, avec, je pense, d'ailleurs, une approche qui était tout de suite plutôt la bonne, c'est-à-dire de dire, non pas se demander si une machine peut penser, au sens humain du terme, mais de savoir si elle peut imiter, c'est le fameux jeu de l'imitation qu'il propose, si elle peut imiter un être humain lorsqu'il pense. Et en fait, c'est ça qui va guider toute la recherche ultérieure, c'est d'arriver à faire des machines qui, soit en imitant les processus qu'on connaît de la réflexion humaine, soit en passant par d'autres voies, vont essayer de réaliser des tâches qui, jusqu'ici, sont ou étaient réservées à des humains pensants et réfléchissants. Alors, sans rentrer donc encore une fois dans tout le détail de ces technologies, celle qui aujourd'hui a été la plus efficace repose sur des fameux réseaux de neurones, une architecture particulière, et en particulier lorsqu'elle est appliquée à du texte, donc ce sont ce qu'on appelle les grands modèles de langage, dont ChatGPT, le meilleur, le plus connu des représentants, permettent d'imiter la manière dont on écrit un texte ou dont on parle, ce qui, curieusement, permet aussi de réaliser d'autres tâches, en fait des tâches cognitives ou intellectuelles au sens plus large. Je pense qu'on pourra reparler après de la manière dont ça arrive effectivement ou pas à reproduire ou à simuler l'intelligence et l'écriture humaine.
Bon, qu'est-ce que vous avez ajouté à cette,
eh bien, vous savez,
à cette histoire?
Vous savez, cher Alain Finkielkraut, il est très rare de commencer une émission en posant les termes du débat, ce dont je me réjouis. Je pense qu'on n'a jamais dit autant d'approximations, voire si on veut être sévère, de sottises à l'égard d'un événement aussi décisif dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est une excellente chose de poser les termes. Alors, évidemment, on peut remonter la généalogie de l'intelligence artificielle à minima aux années 50. Je vais être succinct et les faire remonter à ce qui s'est passé à partir, en gros, du mi-temps des années 2000. Qui voit quoi? Parce qu'il est nécessaire d'avoir une définition lorsqu'on parle de ces enjeux d'une telle importance, et nous le verrons, d'une telle gravité. Et à quoi avons-nous à faire? Et je vous remercie de nous engager vers l'énonciation, la formulation d'une définition qui nous incombe de la définir de façon précise. Alors nous avons affaire, depuis une vingtaine d'années, à un changement de statut des technologies numériques, qui ne sont plus seulement, même si elles continuent, ça continue d'être le cas et plus que jamais, destinées à la collecte automatisée, au stockage automatisé, à l'indexation, ce que nous faisons tous, on tape un mot et on a affaire à des corpus en rapport avec le mot que nous tapons, l'indexation et la manipulation à diverses fins individuelles et collectives de l'information, tout cela de façon automatisée. Et si cela a lieu à faire avec des données toujours plus volumineuses et des vitesses toujours plus rapides, si cela continue, depuis en gros le mi-temps des années 2000, il est apparu un autre embranchement dans l'histoire des technologies numériques, auxquelles on les affecte d'autres fonctions, j'ai presque envie de dire d'une autre mission. Et quelle est-elle, cette mission? Et c'est capital, ce que je vais énoncer là. Est-ce qu'on n'énonce pas suffisamment? Parce que c'est très lourd de conséquences à la suite. La mission, c'est d'expertiser le réel, et dépend de plus en plus étendue du réel, et de plus en plus en temps réel. Alors je vous donne un exemple qui est très éloquent, parce que tout le monde l'utilise, cette puissance d'interprétation, d'expertise de pan du réel. Je pense, par exemple, c'est un exemple que je ne cesse de donner parce qu'il est très éloquent, l'application Waze, rachetée par Google à une société israélienne au milieu des années 2000, qui fait quoi? Qui expertise, qui est une application proprement d'intelligence artificielle principalement, qui expertise l'état du trafic au moment où on l'interroge, qui recueille quantité de volume qu'aucun être humain ne pourrait récolter selon de tels volumes et traiter à de telles vitesses, et qui fait quoi? Qui expertise l'état du trafic. Mais pas seulement. Elle recommande, elle suggère d'emprunter tel itinéraire plutôt que tel autre. C'est-à-dire, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que sont apparues des technologies qui suggèrent, recommandent, voire enjoignent, peut-être je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, d'agir de telle manière plutôt que de telle autre manière. Et cela a des fins très précises. Et pour terminer sur cela, comme si ça ne suffisait pas, n'est-ce pas, depuis fin 2022, est apparu un autre tournant dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Ce que je viens d'expliquer très rapidement, c'est ce que j'appelle la dimension cognitive et organisationnelle. Ça interprète et ça organise, ça envoie des signaux en vue d'agir de telle manière plutôt que de telle autre. Et depuis fin 2022, il est apparu ce que j'appelle le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle, avec depuis le lancement de ChatGPT le 30 novembre 2022, qui est une date historique capitale, vu que plus rien ne sera comme avant, et qui voit quoi? Qui voit des systèmes, dorénavant, parce qu'il faut le dire littéralement pour comprendre de quoi avons-nous affaire, ou qui voit des systèmes prendre en charge des tâches qui jusque-là mobilisaient nos facultés intellectuelles et créatives. Voit-on la gravité qui se joue là?
J'avais l'intention de parler plus tard d'une réalité qui m'interroge, mais je le fais tout de suite. Je vous avais parlé d'une surprise à l'un et à l'autre, et bien elle arrive tout de suite. Sur cette, justement, possibilité de l'intelligence artificielle d'accomplir des tâches intellectuelles. J'ai demandé, ou plutôt j'ai fait demander à un ami dévoué et compétent d'exiger de ChatGPT, l'écriture de mon introduction de cette émission réplique. Voilà l'introduction proposée par l'intelligence artificielle. Je lis « L'intelligence artificielle, miracle ou malédiction, promesse d'un monde débarrassé de la pesanteur du travail intellectuel ou menace pour la pensée elle-même. À en croire ses promoteurs, l'IA ouvre une ère d'infinies possibilités où la machine assistera, voire surpassera l'homme dans les domaines où il croyait sa souveraineté incontestée. L'écriture, la traduction, la médecine, la justice. Mais à cette exaltation s'oppose une inquiétude croissante. Que devient la condition humaine quand une entité non humaine commence à les disputer la parole, la mémoire et même l'imagination? Notre modernité a rêvé d'automates pensants, et voici que ces automates sont là, capables d'imiter nos textes, nos images, nos voix. Mais ces outils dont la puissance nous éblouit, ne risquent-ils pas de nous précipiter dans un monde où la réflexion cède le pas à la simulation, où la pensée se dilue dans le flux instantané d'une production machinique sans auteur? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Raphaël Dohan, écrivain et historien, et Éric Sadin, philosophe et essayiste, qui ont tous deux consacré des ouvrages à cette révolution en cours. L'un interroge la place de l'intelligence artificielle dans l'histoire longue des relations entre l'homme et la technique, l'autre en fait le symptôme d'une dépossession de soi inédite dans notre civilisation. Alors, faut-il s'émerveiller ou s'inquiéter? L'IA est-elle un formidable outil ou un péril pour l'humanité pensante? C'est ce que nous allons tenter d'éclairer aujourd'hui dans Réplique. Des auditeurs jugeront cette introduction plus adéquate que mon petit chapeau. Et je me dis mélancoliquement que tôt ou tard, pour des raisons économiques, des machines cognitives ou des agents conversationnels remplaceront avantageusement sur France Culture numérisée les animateurs ou les présentateurs humains trop humains. Bon, alors justement, en fait, donc, vous qui vous servez de l'intelligence artificielle, que pensez-vous de cette performance, de cette introduction? Que nous dit-elle? Que nous apprend-elle?
Ce qui est intéressant avec ces machines, en fait, c'est que ce sont des machines à pastiche. Fondamentalement, on parle là des grands modèles de langage, donc des intelligences artificielles de synthèse de texte, qui fonctionnent en prévoyant, vous savez, mot par mot, le mot le plus probable, suivant les précédents. Et vous avez intitulé l'émission « Rêve et cauchemar de l'intelligence artificielle ». Et ce qui m'avait le plus frappé à l'origine, quand j'ai découvert ces technologies autour de 2020, c'est que, d'une certaine manière, les grands modèles de langage sont le rêve des structuralistes et des post-structuralistes. Parce qu'en fait, là, on entre dans un monde où, effectivement, littéralement, nous avons du texte sans auteur. C'était la grande idée qu'avait défendue Roland Barthes dans La mort de l'auteur en 1968. Et à l'époque, il y avait quelque chose de provocateur et d'un peu théorique. C'était l'idée que, au fond, un texte ne prend de sens que par son lecteur, qu'on a tort d'attribuer une trop grande importance à la personne de l'auteur, etc. Mais aujourd'hui, on a vraiment le monde où, effectivement, les textes peuvent être écrits tout seuls, d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, c'est que Roland Barthes lui-même avait l'idée que le texte, de toute façon, n'est qu'un tissu de référence au texte précédent. Et qu'en fait, il n'y a que l'intertextualité qui existe. Et c'est comme ça que marchent les grands modèles de langage. Quand il fait le texte que vous avez lu tout à l'heure, il le fait en fait par pure référence, non pas au monde réel de Alain Finkielkraut tel qu'il existe, mais à tous les textes qu'il a pu lire. Non seulement d'ailleurs, peut-être les vôtres ou les transcriptions d'émissions de réplique, mais aussi tous les autres textes de l'humanité qui font sens parce qu'ils sont mis en commun.
Est-ce que c'est mieux que mon chapeau, à votre avis?
Mais en fait, tout dépend de qui l'entend, finalement. Peut-être que si vous l'aviez lu avec le ton et aussi avec l'incarnation que vous lui donnez par votre voix, sans dire à vos auditeurs qu'il n'avait pas été écrit par ChatGPT, peut-être que certains l'auraient trouvé très bien. Et il y a eu des tests empiriques là-dessus où des études montrent qu'effectivement, quand on lit des textes générés par IA sous le nom de grands auteurs, les gens les trouvent très bien. Inversement, quand on leur donne des textes de Stendhal et de Proust et qu'on leur dit que ça a été généré par IA, ils les trouvent vraiment très mauvais. Donc, en un certain sens, ça réveille aussi une faille de notre propre goût, mais je pense justement que c'est le goût qui est le plus important, désormais, plus que la capacité pure à créer du texte.
Bon, alors, Éric Sadan, vous avez préféré mon chapeau ou cette introduction?
Votre chapeau était excellent, je dois dire.
Ah, quand même.
Mais la question, c'est, à mon sens, c'est pas de savoir s'il était mieux. C'est d'abord de relever que ce n'est que factuel, donc il est extrêmement scolaire, ça ressemble à un exposé de lycéen, et qu'il n'y a aucune pensée. C'est-à-dire que le système ne prend pas position. Mais nous vivons, c'est ça qu'il faut relever, et là, au point où nous en sommes, nous vivons un moment de gravité, mais d'une extrême gravité. Peut-être commençons-nous à le voir, et nous le verrons de plus en plus. Et je dois relever que les premiers jours de décembre 2022, au lieu de nous interroger sur ce qui se jouait, c'est-à-dire ce tournant intellectuel et créatif, que des systèmes vont désormais assurer des tâches qui mobilisent jusque-là nos facultés les plus fondamentales, au lieu de nous interroger sur la gravité et de faire toute une série de séminaires, de chantiers de travail à toutes les échelles de la société, qu'est-ce qui s'est passé? Les jours qui ont suivi et les semaines qui ont suivi, parce que j'ai observé cela, moi, les gens ont sauté sur ces outils, à pieds joints en se disant « mais c'est cool !» Je regardais, moi, les commentaires, par exemple, sur Twitter. « C'est cool, ChatGPT !» Mais la première question, plutôt que de les utiliser de façon comme ça, si impulsive et très irresponsable, la première question que nous aurions dû nous poser, la question la plus fondamentale, c'est la question qui va venir d'ici 2-3 ans. Et on commence à me dire qu'elle a déjà posé cette question. C'est celle qui va être posée par nos enfants et nos petits-enfants. La voit-on, cette question de nos enfants qui vont nous dire « Papa, maman, Mais pourquoi moi je vais à l'école si des systèmes sur une simple instruction, un simple prompt de ma part va écrire? Pourquoi ai-je besoin d'apprendre la grammaire, l'orthographe, les grands textes? Déjà, ils sont sur des écrans et sur TikTok du matin au soir. Alors vous pensez que déjà, quand on est dans cet environnement, si des systèmes écrivent à notre place, ils vont pas se gêner? Mais non, cette question, nous ne la sommes pas posée. Et pourquoi nous ne la sommes pas posée? Parce que l'utilitarisme qui est à l'œuvre depuis un siècle et demi dans nos sociétés, il est tellement devenu la norme qu'il a fini par infiltrer nos cervelles très malades et très paresseuses. C'est-à-dire que chacun n'a vu que le midi de ses intérêts à sa porte, sans voir l'étendue des conséquences civilisationnelles. Et les conséquences civilisationnelles, elles sont gigantesques. Et on le verra semaine après semaine, mois après mois et année après année.
Oui, alors justement, d'ailleurs, je vous interrogeais sur Raphaël dans votre livre. Si Rome n'avait pas chuté, vous vous servez de l'intelligence artificielle. J'espère que nous aurons l'occasion de revenir. Mais vous êtes agrégé d'être classique. Et vous enseignez aujourd'hui d'ailleurs à Sciences Po
notamment.
Bon. La transmission était déjà très mal en point. D'ailleurs, le numérique y est pour quelque chose. Les tablettes et surtout les portables. Les portables me semblent être une des inventions les plus néfastes de l'humanité tardive. Et on ne désinvente pas. La seule chose qu'on ait désinventée, si j'ose dire, c'est le Concorde. Sinon, on ne désinvente rien. Mais il y a maintenant l'intelligence artificielle, et il me semble, là je vais dans le centrique ça, qu'elle apporte le coup de grâce à la transmission, parce que les élèves peuvent faire leurs devoirs, même leur dissertation, par ChatGPT, comme j'aurais pu faire mon introduction. Et maintenant, donc il n'y a plus de devoirs en classe, et on supprime les portables à l'entrée des classes aujourd'hui. Bientôt, il va y avoir des portiques, et il va y avoir des fouilles au corps, comme dans les aéroports, dans les écoles, pour éviter les portables. Et ça rend les choses de plus en plus difficiles, parce qu'on se repose sur ces instruments. Donc on a des machines de plus en plus performantes pour une humanité qui risque d'être de plus en plus hébétée. Et la question de la transition est absolument cruciale. Comment y répondre, Raphaël Doran ?
Oui, alors c'est assez paradoxal. D'abord, l'école est sans doute un des lieux de la société qui a le plus d'inertie à la technologie, ce qui peut être d'ailleurs assez bien. Je me souviens que Thomas Edison, en voyant le cinéma pour la première fois, s'était dit que d'ici 10 ans, toutes les salles de classe seraient faites en visionnant des films. Malraux encore, dans les années 70, pensait aussi, et même proposait, que le meilleur cours de France de chaque matière soit télévisé et que les classes soient remplacées par des télévisions, ce qui ne s'est jamais fait en réalité. Et ça ne s'est jamais fait parce qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles l'école est structurée telle qu'elle est aujourd'hui. Donc finalement, l'existence de l'IA aujourd'hui, ça commence déjà, et je pense que ça va aboutir, à revaloriser une école beaucoup plus analogique, beaucoup plus à l'ancienne, parce que précisément, ça ne sert à rien de faire des devoirs à la maison quand on sait qu'ils vont être faits automatiquement par une machine. Mais donc, ça implique de faire des devoirs sur table, manuscrits, à l'ancienne finalement. On revient à des pratiques qu'on connaît bien, qui sont de nature, disons, à faire un homme complet, instruit aux humanités, et qui sont précisément d'ailleurs les compétences qu'on est censé avoir pour ensuite bien se servir des technologies d'IA. Parce que ça repose sur du texte, c'est une puissance formidable de texte, mais ça implique de comprendre ce que c'est qu'un texte, d'être capable soi-même d'en faire pour pouvoir s'en servir. Je suis d'accord que le risque énorme de la flemme, en fait, est celui qui guette la société. Je pense que l'école doit donc devenir un endroit où, en tout cas, on apprend à ne pas s'en servir. Mais il y a un autre aspect qui est qu'on sait aussi que l'école telle qu'elle existe depuis le 19e siècle, disons, où on met 30 élèves ou 40 élèves dans une classe avec un professeur, n'est pas non plus la meilleure manière d'enseigner. Pourquoi ? Parce que on a pas mal d'exemples du fait que le tutorat individuel est bien meilleur quand on peut le faire, bien sûr. Matériellement, c'est souvent difficile, mais les grands génies de l'histoire ont souvent été en fait éduqués par des précepteurs, des tuteurs, parce qu'ils avaient les moyens de le faire. Je pense qu'il y a une place à l'avenir pour une sorte d'école à deux.
Eh bien, moi, je ne le pense pas du tout.
Alors, c'est intéressant. Mais vous voyez à deux aspects, avec un aspect totalement analogique à l'ancienne et un aspect où, les grands modèles de langage peuvent servir de tuteur. Ce sera toujours moins bien qu'un véritable tuteur comme Aristote pour Alexandre le Grand. Mais on peut s'approcher un peu mieux, je pense, que de la vieille technologie de l'école telle qu'elle existait dans les années, 1950.
Je n'ai pas été éduqué par un tuteur, mais peut-être, en effet, ne suis-je pas un génie. Éric Sadin.
Pour ma part, je regrette, vous avez parlé d'inertie, Raphaël, pour ma part, je regrette le manque de réaction qu'a prévalu dès début 2023 dans le monde de l'école, dans le corps professoral. À quoi a-t-on assisté? À une sorte de chaos. C'est-à-dire, il y en a qui utilisaient, il y a des professeurs qui disaient il faut s'adapter, il y en a des très très rares qui ont dit il ne faut pas du tout toucher à cela parce que c'est la boîte de Pandore du renoncement à l'usage de nos facultés. Ça signale quoi cela? ça signale le fait qu'il y a une inertie, que nous n'arrivons pas à travailler à ce que j'appelle une bonne administration de la vitesse. Parce qu'il y a une telle vitesse des développements technologiques qui sont mus par qui ? C'est-à-dire qu'on en arrive à une représentation générale qui voudrait que les développements technologiques, en gros, c'est des faits de société, c'est un projet de société. Mais nullement ! Un projet de société, c'est contradictoire, c'est pluriel. Et puis à un moment, il y a des accords et on se dit qu'il faut aller vers telle direction. À quoi a-t-on affaire ? À des personnes qui, au seul nom du profit, d'une vision du monde extrêmement réductionniste, qui veut que les systèmes, à terme, vont mieux réaliser toute une série de tâches que nous réalisons tellement mal, vous et moi, n'est-ce pas, depuis la nuit des temps, que ce monde de la tech, ce monde de l'industrie, il ne s'agit pas de dénoncer seulement leurs attitudes, il s'agit de voir l'éthos qui les anime et les ambitions et les intérêts privés. Cela s'impose. Et que fait la société ? La société est bien trop passive ou alors elle entérine les choses comme étant relevant eh bien, de phénomènes quasi naturels. C'est pour ça que j'ai organisé ce con. Et l'inéluctable. Parce que, si vous voulez, dans quelques instants, je parlerai de trois grandes conséquences d'une extrême gravité qu'il se passe avec les IA génératives. Oui. Et Raphaël, vous avez parlé, c'est une formidable puissance de texte. Non. C'est un pseudo-langage. C'est un langage nécrosé de la mort. Un langage schématisé, statistique, mathématisé, oui. Qui produit ce qui doit avoir lieu. C'est-à-dire l'opposé absolu de la façon dont nous utilisons le langage fondé sur l'association et l'indétermination. Alors que là, c'est un langage probabiliste. C'est un langage de la mort qui advient. Et il va devenir majoritaire, et des gamins et des foules d'individus vont utiliser ces outils de la mort.
L'outil de la mort, dites-vous.
Du renoncement à nous-mêmes.
Mais vous savez, Peggy avait une formule incroyable, parlant du métro, disant qu'il rend trop de services. Il n'aimait pas ça. Mais justement, la technologie de la mort, l'IA a peut-être quelque chose d'inéluctable du fait des services qu'elle rend. Vous
ça,
avez parlé
certain,
de Waze.
Ça, c'est certain.
Vous avez parlé de Waze. Il m'arrive de prendre le taxi, et ça vaut pour toutes les villes de France. Les taxis, maintenant, se reposent sur leur GPS. Dans votre livre, vous dites que les personnes ne sont plus livrées elles-mêmes, mais prises en charge par les appareils. Et ça, on le voit. C'est-à-dire, les chauffeurs ne connaissent plus les villes où ils évoluent, parce que c'est plus facile, c'est plus commode. D'ailleurs, le savoir, pourquoi l'enseignement est-il en danger ? Parce que le savoir est disponible, et parce qu'avec la disponibilité du savoir, se répand l'illusion...
Ou en tout cas des informations, plutôt que le savoir, des informations.
Qu'on sait sans avoir appris, puisqu'il suffit de taper sur une touche. Cette disponibilité, donc ce phénomène, me paraît d'autant plus inquiétant qu'il est de plus en plus commode, Raphaël Doran.
C'est à la fois vrai et, je pense, inéluctable. Et donc, il faut en tenir compte et essayer de construire...
Et non, ce n'est pas inéluctable.
Moi, je pense que c'est inéluctable.
On va voir.
Moi, je pense que la technologie des grands modèles de langage, des réseaux de neurones, elle était faite pour arriver une fois qu'on avait inventé l'ordinateur. Après, on peut remonter ainsi de suite jusqu'au début de l'humanité, des premières inventions. Mais moi, je pense qu'il est absolument certain que c'est inéluctable, ne serait-ce que pour des raisons géopolitiques, qui est que... C'est deux choses l'une. Soit on considère que l'intelligence artificielle est un surcroît de puissance, parce qu'elle marche, parce qu'elle résout effectivement des problèmes, parce qu'elle permet d'accomplir des tâches mieux ou plus rapidement que les humains. Soit on considère que c'est pas le cas. Mais en fait, moi, je pense que c'est le cas, et je pense que beaucoup de gens...
C'est pas l'enjeu, c'est pas du tout l'enjeu.
Si, c'est absolument l'enjeu, parce que ça veut dire que, par exemple, évidemment, dans la rivalité avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Russie, etc., chacun essaye...
Il n'y a pas que la géopolitique, il y a les sociétés, cher monsieur.
Oui, mais la géopolitique, c'est aussi ce qui gouverne les sociétés.
Il y a les parents.
Bien sûr, mais la bombe atomique, par exemple, elle a été faite à cause de la géopolitique, pas à cause de la société. Et là, on est un peu dans le même registre. Évidemment, c'est pas la bombe atomique.
Oui, sauf qu'il n'y a pas d'usage individuel et collectif de la bombe atomique.
Non, mais il y a quand même un usage économique qui sera évident, c'est-à-dire que ce sont des technologies qui vont s'insérer. Alors, on peut trouver ça pas bien, mais je pense que c'est
si nous restons
pour le coup
passifs.
Inévitable.
Si nous restons passifs,
non, parce que simplement, si par exemple, la Chine, comme elle commence à le faire d'ailleurs, intègre des modèles de langage et de l'IA à tous les niveaux de son administration, et en fait de son économie plus largement, et qu'elle gagne en productivité, et qu'elle gagne en croissance, et qu'elle gagne en moyens d'action par ce biais-là, si nous restons en retard, nous n'avons pas vraiment le choix en fait. Ou alors on admet d'être
mais
un pays qui stagne technologiquement. Parce
retard
que,
sur quel modèle de société ?
Oui, non, on peut vouloir être...
Attendez, finissez.
Ouais.
Raphaël Doran.
Une seconde. Mais en disant ça, je ne nie pas les inconvénients sociétaux, enfin, dans la société qui existent, mais qui, surtout Platon déjà, vous savez, dans ce fameux passage où Socrate parle de l'écriture et
fait, je pense, à juste titre, le reproche à l'écriture d'avoir affaibli la mémoire humaine, ce qui est probablement le cas. On devait savoir plus de choses par cœur avant l'écriture. Et on pourrait parler de Waze et des GPS tout à l'heure. Les cartes sont aussi une manière de perdre un peu la connaissance, disons, intuitive et corporelle de son environnement, à moindre échelle. Mais je pense qu'on est dans un degré, justement, enfin, une question de degré, plus que de nature. Donc, il y a des inconvénients. Il y a le premier, me paraît, celui de la flemme et de la paresse dont on parlait tout à l'heure, la flemme intellectuelle. Mais je pense qu'on n'a pas le choix en termes de pure relation de puissance avec le reste du monde.
Pas simplement de relation de puissance. Pensez-vous sérieusement, Éric Sadin, qu'on peut arrêter ou inverser le processus dans lequel nous sommes engagés?
Alors, on va redéfinir les termes. Je n'y crois pas, c'est évidemment quasi impossible. Bon, on va redéfinir les termes. Vous parliez d'enjeux géopolitiques, c'est bien le drame. C'est-à-dire que vous avez utilisé un terme que pour ma part je n'utiliserai pas, que je dénonce, que je critique, c'est-à-dire celui de retard. C'est ce que nous avons vu au sommet de Paris, ce que nous voyons. Voyez-vous, il y a eu Stargate, Trump et toute sa bande a annoncé 500 milliards d'investissements, Emmanuel Macron a annoncé 180 milliards, la Chine fait DeepSeek. Vous voyez, c'est cette course qui veut que si le concurrent engage des fonds, eh bien, on va devoir s'inscrire dans cette course qui va nous mener à ce que j'appelle le désert de nous-mêmes. Alors, ce que je crois, c'est qu'il faut être très, très précis sur les usages. Je vais vous faire une topographie très précise qui, j'espère, va nous permettre d'y voir plus clair. Avec l'intelligence artificielle, ce que j'ai appelé dans un premier temps cognitive et organisationnelle, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est qu'elle permet, des systèmes d'intelligence artificielle permettent d'interpréter, d'expertiser, de traiter des masses de données selon des volumes et des vitesses qu'aucun humain ou même des collectifs ne pourraient le faire. Et cela, ça a des usages. Par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, en vue de développer des molécules personnalisées, adaptées à chaque pathologie, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire on souhaite ça, on le souhaite pas. Eh bien évidemment. Ou par exemple, dans l'aéronautique, il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent d'affiner les structures aérodynamiques des formes des avions et des ailes. Qu'est-ce qu'on va dire là ? Que la puissance de l'intelligence artificielle, en termes industriels, on la refuse. On va dire qu'a priori, ça pose pas trop de problèmes. Mais de quoi avons-nous parlé ? De systèmes interprétatifs et qui envoient des signaux. Je vous donne un exemple. Là, je parle d'autre chose qui devrait mobiliser notre attention, voire de l'action et qui n'a jamais lieu. Et cela, ça a l'œuvre dans quantité de champs du travail et dans d'autres champs de la société. Par exemple, si on veut voir l'enfer contemporain avec des usages de systèmes d'intelligence artificielle, là, ce sont d'autres usages. Ce sont des usages d'encadrement de l'action humaine. C'est cela qu'on ne voit pas suffisamment. Je vous engagerai, mais là, c'est la black box. On ne voit pas d'aller, par exemple, dans un entrepôt Amazon de logistique, le e-commerce, voir comment il y a des modalités de management totalement inhumaines qui sont à l'œuvre. Et qui voit quoi ? Des capteurs sous forme de smartphones ou de tablettes dont sont équipés les manufacturiers et des systèmes d'intelligence artificielle qui interprètent leur localisation, leur niveau de performance et qui leur envoient des signaux pour aller chercher tel article dans telle armoire, pour les déposer à telle vitesse dans telle palette, réduisant des humains à des robots de chair et de sang avant qu'ils soient remplacés eux-mêmes par des robots. Cela, est-ce que vous avez entendu une seule fois un législateur se pencher sur ces enjeux ? Et ces systèmes d'interprétation et de recommandation, elle est à l'œuvre évidemment dans le marketing et dans le commerce. C'est-à-dire que chaque individu aujourd'hui est interprété et il y a des signaux de recommandation. Ce que j'appelle un capitalisme de la vie intégrale. Est-ce que c'est un modèle de société qu'on souhaite et que je souhaite ? Évidemment non.
Évidemment non.
Et puis il y a la troisième dimension, c'est la dimension intellectuelle et créative qui là, je vous le garantis, et nous le verrons en 2030 si nous sommes tous encore là, ce qui va nous conduire au désert de nous-mêmes et à un ouragan sur quantité de professions à haute compétence cognitive. C'est pour ça que j'ai organisé ce contre-sommet de Paris, pour faire témoigner toutes ces compétences à haute compétence cognitive dont personne n'a parlé au Congrès de Paris, dont Emmanuel Macron et tous les entrepreneurs qui étaient présents, ils n'en ont pas parlé une seule seconde. Je pense au monde de l'éducation, je pense au monde des traducteurs littéraires, je pense au monde des comédiens doubleurs, je pense au monde des scénaristes qui vont tous subir un ouragan. Mais vous savez, on voit les choses toujours avec retard. Le rapport Meadows de 73 qui annonçait déjà la catastrophe climatique, personne n'a voulu le voir. C'était publié, personne n'a voulu le voir. Et vous verrez que d'ici quelques années, on se dira, mais comment on a laissé faire ça ? On a été complètement fou. Donc l'idée, ce n'est pas l'intelligence artificielle dans sa dimension globale, c'est de distinguer les usages et de distinguer les conséquences juridico-politiques et de distinguer les conséquences civilisationnelles et anthropologiques.
Alors, conséquences civilisationnelles et anthropologiques, en effet, il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Il y a un autre rapport, un rapport McKinsey, qui annonçait la disparition d'un certain nombre de professions, donc une part grandissante de l'humanité mise au chômage. Et Elon Musk dit qu'il faut justement à cet égard généraliser le revenu universel. Et j'ai sous les yeux le livre d'Alexis Gladilin-Bozio, et il cite une autrice polonaise, Joanna Maciewska. Je veux que l'IA fasse ma lessive et ma vaisselle pour que je puisse peindre et écrire, et non que l'IA peigne et écrive pour que je puisse faire ma lessive et ma vaisselle. Et elle dit, c'est peut-être dans ce monde-là que nous entrons. Ce cauchemar vous fait-il peur, Raphaël Dohan ?
D'abord, je pense que l'IA fera un jour la lessive aussi, et qu'on aura des robots humanoïdes qui pourront le faire également. Donc, ça laissera peut-être du temps.
C'est la grande trajectoire en cours.
Voilà, exactement.
Ce qu'on appelle l'IA physique.
Exactement. Et par ailleurs, rien n'empêche, même l'existence de l'IA, de faire de la peinture et de l'écriture pour le plaisir, si c'est ça qui continue. Et je pense qu'il y aura toujours un public pour les œuvres faites maison, entre guillemets, faites à la main, comme d'ailleurs l'enregistrement sonore n'a pas tué la musique en live, et comme bon, plein d'autres domaines dans lesquels, en fait, les technologies ajoutent plus qu'elle ne retire.
Vous allez très vite.
Différents
hein,
arts. Et il y a des arts qui sont déjà mécaniques, je pense au cinéma, et où moi je suis très optimiste sur les possibilités que ça offre. Par exemple, Stanley Kubrick n'a jamais pu, pour des raisons matérielles, réaliser son fameux film sur Napoléon. Trop cher, trop compliqué matériellement, etc. Je pense qu'on arrivera dans pas si longtemps que ça à un état de l'art où un Stanley Kubrick pourrait faire, mais vraiment au degré, au détail près de chacun de ses plans, le film entier qu'il a dans sa tête, le scénario qu'il a imaginé, sans aucune contrainte due aux studios de production qui ne veulent pas payer tel
avec
ou tel.
Des acteurs générés.
Avec
par
des acteurs générés, oui, et qui ressembleront peut-être beaucoup
c'est
plus.
C'est ça qu'ils appellent l'anti-humanisme radical.
Mais pourquoi est-ce qu'on trouverait ça forcément horrible dans la mesure où il aura été entièrement voulu par l'auteur. Oui. Il y a tout de même une volonté humaine derrière dans ce cas-là.
Mais il n'y aura plus d'acteurs, donc c'est...
Il y aura des acteurs aussi.
Comme c'est bien, merveilleusement Günther Anders, l'obsolescence de l'homme.
C'est bien le problème. C'est-à-dire que les personnes dont vous parlez là ne voient que le côté pratique sans se soucier des conséquences civilisationnelles. Parce que sur ce qui va se passer sur le
civilisationnel
travail...
Civilisationnel aussi, hein, de dire ça.
Ce qui va se passer dans le monde du travail, une fois encore, c'est d'une extrême gravité. Mais ça, on ne le voit pas très bien. Pourquoi on ne le voit pas très bien ? J'ai théorisé cela depuis un moment. Parce que notre représentation sont déterminées par le dogme schumpeterien, encore aujourd'hui. Le dogme schumpeterien, c'est...
La destruction créatrice
de l'économiste Joseph Schumpeter, qui l'a théorisé il y a près d'un siècle maintenant, dans les années 1930, et qui voulait quoi ? Qui voulait que les développements technologiques entraînent des destructions d'emplois pour voir des transferts des emplois détruits vers des emplois nouvellement créés. Ce dogme de Schumpeter, il s'est vérifié au cours des décennies, et notamment au cours des années 80, lorsqu'il y a eu la robotisation de l'industrie automobile et qui a vu des foules de travailleurs à haute pénibilité, donc là on peut dire que c'était pour la bonne cause, soit être mis à la retraite, soit être transférés vers des métiers de service. Et nous savons que les métiers de service, aujourd'hui, c'est plus de 2/3, même dans certains pays, c'est plus de 80% des métiers. Et qu'est-ce qui caractérise les métiers de service ? C'est que justement, ils mobilisent nos facultés intellectuelles et créatives. Et que ces technologies, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont assurer ces tâches de façon infiniment plus rapide, de façon prétendument plus fiable et à terme à moindre coût. Mais comment ne pas voir l'ouragan qui vient ? Et vous savez, Sam Altman, le cofondateur d'OpenAI, il a annoncé la couleur. Il s'est pas gêné, il a annoncé la couleur lors du premier anniversaire du lancement de ChatGPT, cette fois-ci le 30 novembre 2023, lors d'une ces fameuses keynotes de la Silicon Valley, devant une foule en adoration, qu'il applaudissait. On a dit, on a été bon en 2022. Wow, amazing, amazing. Une foule en adoration qu'il a applaudi, des milliers de personnes. Il a dit, calm down. Ce n'est rien par rapport à ce qui vient. Et il a annoncé ce qui vient. C'est les super assistants. C'est-à-dire qu'à terme, dans tous les champs de la vie, des systèmes vont nous donner réponse à tout, voire prendre en charge des tâches que nous faisons physiquement avec l'IA physique. Par exemple, j'ai un problème juridique. Qu'est-ce que je vais aller voir en 2030 ? Un cabinet d'avocats qui va me coûter cher. Ça va être des coups de fil, de me déplacer. Assistant juridique. Le généraliste, je peux vous garantir, bien peut-être sûr. Pas le spécialiste, le médecin généraliste, au nom de l'utilitarisme et des déserts médicaux, je vous garantis que les agences de la santé des différents pays vont valider, vont dire, les généralistes, d'ici, avec des capteurs, des caméras, d'ici 3-4 ans, des systèmes vont assurer des tâches que assurent les généralistes. Voyez le renoncement civilisationnel, oui, ce que suppose la présence d'un médecin. Donc cela, on ne le voit pas, parce qu'on reste engoncé dans des schémas qui commencent à s'effriter, et même les responsables politiques ne le voient pas. Et c'est ça au contre-sommet qu'on a vu. Vous savez, quand des traducteurs littéraires disent c'est une traduction sans âme, et que nous, on nous donne des éditeurs de la Place de Paris commencent à nous donner des textes qui n'ont ni queue ni tête, il faut tout reprendre, c'est absolument indigeste.
Oui, mais
eh bien, c'est une honte faite à notre condition et à des travails d'une extrême noblesse, n'est-ce pas, notamment les traducteurs littéraires.
Raphaël Doran, vous voulez intervenir?
Oui, d'abord, je suis toujours un doute quand on parle d'âme pour la création humaine, parce que justement, encore
c'est
une
c'est
fois.
C'est capital.
Oui, mais quand on fait des blind tests et quand les gens, on les met face à la création par IA ou par humain, ils sont pas forcément capables de faire la différence du tout.
C'est pas l'enjeu.
Ah oui, mais si, c'est l'enjeu, parce que ça veut dire que sinon, l'âme est une sorte d'invention avec laquelle on se rassure en se disant que, bon, bah, au moins.
Vous parlez de traduction sans âme.
Hein. Et les traductions, justement, il y a aujourd'hui beaucoup de traducteurs qui sont en fait moins bons que ce que peut faire ChatGPT. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. J'ai vu des textes traduits par un humain où je me suis dit, ça aurait été mieux traduit, de manière plus idiomatique, que si ça avait été fait par ChatGPT. On en est là.
Sur ma chaise, hein.
Alors, non, j'en suis. Ça, je l'ai expérimenté moi-même, sans aucune difficulté. Par ailleurs, je trouve que c'est difficile de dire que c'est une sorte de cauchemar civilisationnel. L'idée que chacun puisse avoir accès à un médecin généraliste virtuel dans sa poche qui pourrait effectivement résoudre les problèmes qu'ils ont. Aujourd'hui, on n'a pas de médecin. Enfin, on manque de médecins. En quoi est-ce qu'on devrait préférer un monde où on n'a pas assez de médecins pour tout le monde, où en plus les médecins eux-mêmes sont de qualité variable, à un monde où chaque problème peut être diagnostiqué du mieux possible par une machine? J'ajouterai une dernière chose, c'est que il y a quand même beaucoup, beaucoup de domaines de l'activité humaine où on a fait confiance aux machines auparavant, pour ne serait-ce que par exemple le micro qu'on utilise aujourd'hui pour enregistrer. Je pense pas qu'on perd en âme en utilisant ce micro. Un doubleur, par exemple, de cinéma ou de série télévisée, on aura bientôt, très probablement, une version de chaque film avec la voix de l'acteur original transposée dans une langue différente. On garde sa voix, c'est intéressant aussi, si on parle d'âme, justement. On est peut-être plus proche de la personne quand on garde sa voix et sa tonalité que quand on passe par un doubleur.
Alors, simplement, vous parlez dans votre livre, Éric Sadin, d'une doxa de l'inéluctable. Mais il y a aussi autre chose, c'est-à-dire... L'intelligence artificielle peut être vraiment néfaste et malfaisante, notamment Amazon et tout ça, mais les spécialistes, les grands médecins reconnaissent déjà les bienfaits de l'intelligence
artificielle. Pour certains usages.
Donc ça veut dire...
Et d'ailleurs, c'est plus la pharmacie que les médecins.
La médecine est au cœur du projet moderne. Avec la modernité... La fin de la philosophie n'est plus la contemplation désintéressée de l'éternel, mais le soulagement de la condition humaine. Et Descartes disait, la conservation de la santé est le premier bien en cette vie et qu'est le principal objet de ses études. Et on a l'impression qu'on n'échappera pas à l'intelligence artificielle du fait même des progrès réalisés dans la médecine. Ces bienfaits vont masquer, si vous voulez, voire légitimer sa malfaisance. Or, dans votre livre, vous dites aussi que même en médecine, comme d'ailleurs en justice, ça peut être dangereux, Éric Sadon.
Bah déjà, nous avons affaire à une énorme entreprise de privatisation de la médecine avec des systèmes d'intelligence artificielle, qui ne sont pas développés par des médecins, mais principalement par l'industrie numérique. Je voudrais juste revenir quelques instants sur ce que, mon cher Raphaël Doran, je juge comme du cynisme de votre part, c'est-à-dire de dire qu'il y a de la traduction qui est meilleure, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voyez-vous les traducteurs littéraires, c'est-à-dire par pertes et profits, c'est cette profession et quantité de professions qui sont soumises à subir un énorme ouragan. Parce qu'à quoi avons-nous affaire? La société, déjà, qui est très mal en point, et nous vivons un moment d'atomisation généralisée, et chacun ne fait plus qu'exprimer ses rancœurs à vouloir à la terre entière, comme si ça ne suffisait pas. La société, ce ne sont pas que des principes communs, c'est aussi des liens d'interdépendance. C'est ça qui fait société. Ce sont des liens d'interdépendance. J'ai besoin d'un médecin, je suis en difficulté, j'ai besoin d'un médecin, j'ai besoin d'un avocat, j'ai besoin d'un commerçant. On a tous besoin de personnes qui n'ont pas les compétences que chacun a. Et c'est cela qui est en train de s'épuiser au profit de vis-à-vis avec des écrans, mais à l'intérieur d'un autre cadre. C'est-à-dire ce que j'ai appelé l'assistanat algorithmique de la vie depuis une dizaine d'années maintenant. C'est-à-dire que nous allons demander tout à des systèmes, des pans de plus en plus étendus de nos soucis à des systèmes. Et ça va conduire à quoi, cela? Ça va conduire au fait que toutes nos actions vont être adossées à l'industrie du numérique qui va générer des profits de chaque requête et interrogation. Et ça va conduire à ce que j'appelle un isolement collectif, c'est-à-dire chacun avec ses systèmes personnalisés qui répond à toutes nos souhaits ou toutes nos difficultés. Et puis quand je parlais de société qui est déjà mal en point, et ça c'est d'une extrême gravité, vous parliez de cette caricature abjecte qui a été faite de Cyril Hanouna, ce à quoi nous avons affaire avec les IA génératives, parce qu'on sait que les prompts c'est pas seulement la génération de textes, c'est aussi d'images et de vidéos. Ça c'est d'une extrême gravité, parce que la société n'est pas déjà suffisamment folle. Maintenant, on peut générer l'image, d'un, par exemple, de mon voisin avec qui j'ai un différend, qui frapperait une voisine, je commande ça, et je la poste sur Internet. Et ça, c'est d'une extrême gravité, parce que la société, c'est pas seulement des principes communs, c'est des référents communs. Faut de quoi on ne se comprend plus. Oui. Et vous savez ce qui s'est passé avec Cyril Hanouna et quantité de ce type d'image. Ce n'est malheureusement que le début.
C'est le début.
Ce n'est que le début. Et ça, c'est d'une extrême gravité. Ce que je crois, moi, mais ça, c'est un gros mot aujourd'hui, ce que je crois, c'est que nous aurions dû carrément interdire. Mais on ne sait plus interdire, parce qu'on estime que ce monde de l'industrie du numérique porte tellement la vérité, comprend tellement l'air du temps, qu'il faut juste quoi ? S'adapter, en croyant que la régulation, tu parles, que la régulation va nous prémunir des pires dérives, ce qui n'est en aucune manière le cas, vu que malheureusement, je ne pense pas que j'aurai le temps d'expliquer pourquoi la régulation ne répond absolument pas à la gravité de la situation actuelle.
Oui, mais en même temps, cette caricature d'Hanouna, c'est tout à coup, maintenant, il n'y a pas simplement des dessins, il y a des photos qui sont des caricatures, mais la France Insoumise a voulu en imputer la responsabilité à Elon Musk, alors que quand même, ils ont demandé quelque chose, et dans un premier temps, ils ont voulu que cette caricature illustre leur affiche pour une manifestation contre le racisme, une affiche délibérément antisémite dans une manifestation contre le racisme. En tout cas, effectivement, là, on peut être effrayé parce que l'intelligence artificielle, sans pour autant oublier la responsabilité humaine.
Raphaël, et là, c'est trop tard. Hein.
Mais là, je pense que c'est la pure responsabilité humaine, en l'occurrence. C'est-à-dire que, encore une fois, ce sont fondamentalement des machines à pastiche. Ils leur ont demandé de faire un pastiche, en fait, d'affiches antisémites. Elle l'a fait. Et ils l'apprennent. Ils l'ont publié. Ils l'ont choisi. Ils auraient pu en choisir mille autres. Hein. Enfin, vraiment là, à part effectivement pour aller chercher un point contre Elon Musk, mais le rôle de l'IA est quand même très mineur finalement, parce qu'ils auraient pu aussi le faire dessiner, ils auraient pu faire une retouche.
Ils auraient pu faire une retouche par Photoshop. La facilité avec lesquelles on peut faire des choses qui répondent à la moindre lubie ou à la moindre.
Alors, je pense que c'est l'exemple que vous avez pris juste avant de effectivement des risques de s'attaquer à son voisin. C'est plus un meilleur exemple du risque. Parce qu'un parti politique comme LFI avait les moyens avant, très rapidement, de faire un montage Photoshop pour faire l'équivalent de ce qu'ils ont fait là par IA. Pour moi, c'est pas l'exemple le plus caractéristique.
Avant l'IA, il y a eu quand même le choix, ça même commence avec Leibniz, de réduire l'intelligence ou la pensée au calcul. Et ensuite, en effet, on a confié le calcul à des machines. Et dans son livre, Luc Ferry, IA, grand remplacement ou complémentarité, cite un auteur, un universitaire américain, qui dit « Notre cerveau est un système de traitement de l'information. Dans sa façon de conceptualiser, il produit des probabilités et manipule des chiffres. C'est à partir de cette activité que se produit la créativité. » Donc, définition computationnel de la pensée. À cet égard, moi, je pense au grand philosophe de la technique, Heidegger, qui, dans une conférence à Meskirch, a dit « L'homme est en fuite devant la pensée ». Il disait « Mais attention, je préviens l'objection. Il fait de plus en plus de calculs, de prévisions, de recherches. » Oui, mais c'est une pensée calculante qui ne va pas dans le sens de ce qui est. Et il oppose la pensée calculante à la pensée méditante. Il me semble que c'est la pensée calculante qui triomphe aujourd'hui, même en dehors de l'IA, au détriment de la pensée méditante, mais je ne crois pas que l'IA puisse aller jusqu'à s'annexer ce que Heidegger appelle la pensée méditante. Elle va plutôt en aggraver l'oubli, non ?
Oui, en tous les cas, ce sont que des modalités schématiques, hein, avec de la corrélation. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une question gigantesque, questions philosophiques à portée morale, civilisationnelle, et utilisons des grands mots, anthropologiques. C'est-à-dire que, à l'heure où des systèmes sont appelés toujours plus à organiser le cours des affaires humaines, hein, et voire jusqu'à avoir des capacités auto-décisionnelles. Par exemple, dans le trading algorithmique, des systèmes, ça c'est pas rien dans l'histoire de l'humanité, des systèmes évaluent le cours des titres et décident d'eux-mêmes d'acheter ou de vendre selon et à des vitesses faramineuses, d'eux-mêmes d'acheter ou de vendre. À l'heure où des systèmes ne cessent d'organiser le cours des choses, et où des systèmes s'emparent de nos capacités les plus fondamentales, qui nous constitue en propre, la question c'est quel va être notre rôle sur Terre ? Ou dit autrement, qu'en sera-t-il de nos capacités agissantes ? Cette question, elle nous regarde tous. Elle n'est pas une question, elle ne correspond pas à une question qui peut être gérée par le législateur. C'est pour ça que ce que je crois, moi, alors vous parliez de système d'intelligence artificielle, c'est un abus de langage en réalité, il faut dire je l'ai autorisé dès 2018, c'est un abus de langage, en réalité c'est un mode de rationalité fondé sur la volonté d'instaurer une vision hyper optimisée et rationalisée de la société et d'instaurer ce que j'appelle une marchandisation intégrale de la vie par des systèmes d'hyper personnalisation de l'offre. Donc ce que je crois aujourd'hui, quand vous parliez de dimension inéluctable, moi ce que je crois, c'est que il y a un exemple qui aurait dû nous mobiliser et qui aurait dû nous inspirer. C'est celui, je pense, à ce qui s'est passé en mai 2023. Quand vous disiez c'est inéluctable, je vous donne un exemple. Ce qui s'est passé en mai 2023 à Hollywood, les scénaristes d'Hollywood, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vu le mauvais vent venir. C'est-à-dire qu'ils ont vu, c'était pas encore le cas. C'est pas encore exactement le cas. Ça le sera dans 2-3 ans, vu la sophistication à vitesse sans cesse croissante des systèmes. Ils ont vu que d'ici quelques années, des systèmes allaient être en mesure de générer des scripts, des scénarios. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont mobilisés. Ils se sont mis en grève pendant 6 mois, dans un pays où l'endettement individuel personnel est extrêmement important. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont eu gain de cause jusqu'à nouvel ordre. Alors ce que je crois, moi, et c'est ce que nous avons vu dans le contre-sommet, ce contre-sommet, moi, je l'ai organisé en vue d'engager des témoignages, c'est-à-dire comment ça se passe, très loin des discours toujours énoncés au futur par le monde de la tech, hein, qui ne cesse d'annoncer des lendemains qui, n'en doutons pas, il ne faut pas en douter, vont chanter. Non, qu'on nous raconte comment ça se passe réellement dans le monde du doublage, dans le monde de la traduction, dans le monde du travail, et aussi des formes de mobilisation. Alors, ce que je crois, que vous parliez d'inéluctable, la société n'est pas un corps neutre, un corps passif, un corps latent. Ce sont des multiplicités, une infinité de forces vives. Ce que je crois, moi, c'est que puisque le régulateur est soumis au dogme technolibéral et qu'en réalité la régulation, et j'ai pas le temps d'expliquer, malheureusement, ne correspond nullement à le cas de figure, ce que je crois, c'est qu'il faut écrire des chartes, par fédération, par métier. Ça, on y est prêt, ça, on n'y est pas prêt. Et que, en groupe, il y ait des rapports de force qui soient engagés. Et c'est cela qui nous manque. Et c'est pareil dans l'école. Il manque de collectifs de parents d'élèves et de professeurs qui disent on peut là revenir en arrière et on ne veut pas que des systèmes d'IA défassent nos gamins de l'utilisation de leurs capacités intellectuelles et créatives.
Raphaël Dohan, qu'en pensez-vous ?
Non seulement je ne pense pas que ce soit par des chartes qu'on puisse lutter contre l'avènement de l'intelligence artificielle,
c'est
mais je ne pense
que
pas que ce serait...
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Attendez, bon. S'il vous plaît, Rick Sadin, laissez-le parler.
Je ne pense même pas que ce soit possible. C'est un peu comme, vous savez, le Japon au début de l'ère Meiji, après sa période de fermeture au monde extérieur, découvre avec ses relations avec les puissances occidentales qu'il est effectivement, j'utilisais le mot tout à l'heure, en retard, mais parce qu'il l'est. Il se rend compte que, du point de vue de l'armement, du point de vue de l'industrie, du point de vue de la manufacture, il est effectivement en retard, c'est-à-dire qu'il a moins de capacité d'action en tant que nation que des puissances occidentales, et il prend la décision, heureusement pour lui, de rattraper ce retard à toute vitesse. Et ça a eu des effets d'ailleurs très destructeurs aussi sur une partie de la société traditionnelle japonaise. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas vraiment plus le choix. C'est-à-dire qu'on a des technologies qui, d'ailleurs vous le dites vous-même, sont en fait, effectivement, réussissent les tâches qu'on leur donne.
Oui, c'est pas la question,
certes. Vous contestez sur les traductions, on n'est pas d'accord là-dessus.
C'est pas que je conteste.
Mais par ailleurs, je voulais juste terminer sur le fait que... Oui,
traducteur, cher monsieur.
D'accord,
c'est
traducteur.
Pas du tout la même chose.
Oui, il y a des métiers qui vont disparaître, ça c'est certain. Mais le métier... À l'époque de Leibniz, par exemple, il y avait des gens dont le métier était de calculer, précisément, de faire des calculs à la main ou avec un boulier. pour la comptabilité, pour plein d'autres choses. C'est des métiers qui ont disparu depuis qu'on a inventé les machines à calculer. De la même manière, je pense qu'effectivement, la traduction est un métier qui n'est pas promis un grand avenir, à part peut-être pour des tâches très littéraires, de traduction poétique, par exemple, où on a envie d'avoir la traduction par telle personne, comme ça arrive.
On a intérêt.
Il y a beaucoup de tâches.
Pour Faulkner, on a
par exemple, mais c'est pas la majorité des traductions qui sont faites aujourd'hui. Exactement. Mais 99% des traductions aujourd'hui, c'est du texte qui n'a pas un intérêt littéraire. Oui, mais alors ça, pourquoi pas? C'est un métier qui va rester, comme il y a aussi des gens qui font aujourd'hui de la poterie à l'ancienne, alors qu'on, et c'est très bien. Mais c'est pas significatif au niveau, justement, civilisationnel, économique et encore une fois de relations de puissance.
Bon, mais je terminerai sur une note, je vous interrogerai très brièvement Eric Sadin. Günther Anders, dans son livre L'obsolescence de l'homme, parle de la honte prométhéenne. Il dit que l'homme est intimidé par la supériorité et la puissance de ses produits. C'est dans les années 50.
Absolument. Hein.
Il a déserté son camp et rejoint le leur. La honte de ne pas être une chose, dit-il, et il a cette phrase incroyable, les instruments sont les surdoués d'aujourd'hui. Et c'est ça qui nous arrive.
Mais c'est non seulement ça qui nous arrive, c'est ça qui est souhaité. Je vous cite Geoffroy Hinton, qui a eu le prix Nobel de physique, je crois, qui est une personne qui travaille sur l'IA depuis, un ingénieur de l'IA depuis 40 ans, qui est une sorte de repenti depuis l'avènement de ChatGPT, où il fallait voir les choses avant. Et lors d'une conférence à laquelle il participait, il lui a été demandé, écoutons bien les choses, s'il était favorable au fait qu'une IA super intelligence, je cite là, remplace par quelque chose d'objectivement meilleur en termes de conscience, remplace les humains. Il a répondu, en fait je suis pour, mais je pense qu'il serait plus sage pour moi de dire que je suis contre. Et en a conclu en disant qu'il n'est pas certain que nous soyons la meilleure forme d'intelligence qui soit. Voilà la vision qui est à l'œuvre. C'est la honte prométhéenne. Et probablement, je voudrais juste citer le roi Goran pour terminer, qui a écrit le geste et la parole, l'anthropologue ethnologue, à aucun moment de ses évolutions, l'humain n'a encore eu à rompre avec lui-même. Peut-être que ce qui nous attend, c'est que nous allons rompre avec nous-mêmes et le plus fondamental et le plus noble de nous-mêmes.
Merci beaucoup, Eric Sadin, pour cette belle et inquiétante conclusion. Je rappelle, Raphaël Dohan, votre livre, Si Rome n'avait pas chuté, on n'a pas eu le temps d'en parler, aux éditions Passé Composé, et le vôtre, Eric Sadin, L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, qui a été publié aux éditions de L'Échappée. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard et Jeanne Agrapard, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Hélène Langlois. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre La France, l'Europe et le Nouvel Ordre Mondial. Mes invités seront Pierre Manant et Hubert Védrine. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney. And if I make it through, it's all